L'Église orthodoxe, aujourd'hui. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous évoquer la présence orthodoxe sur une île située à l'extrême nord-ouest de l'Europe, l'Irlande. Saint Patrick, le patron et l'illuminateur de l'Irlande, a été choisi comme saint patron de la paroisse orthodoxe roumaine de Cork, qui se trouve aussi sous le patronage spirituel du saint roumain calvinique de Cernica. Le 17 mars, à l'occasion de la fête de Saint Patrick, Mgr Joseph, le métropolite de la métropole orthodoxe roumaine d'Europe occidentale et méridionale, a célébré la divine liturgie dans cette paroisse d'Irlande. Ensuite, il a dialogué avec les membres de NEPSIS, l'association de jeunes de la métropole. Le congrès général de NEPSIS a eu lieu à Rome à la fin du mois dernier. Mais la filiale NEPSIS Irlande a organisé son premier congrès en janvier à la paroisse orthodoxe roumaine l'exaltation de la Sainte Croix à Dublin. Les jeunes ont eu comme invité le métropolite Joseph et sœur Madeleine du monastère orthodoxe Saint-Jean-Baptiste d'Angleterre. Les participants sont venus de toute l'Irlande, de France, de Belgique, d'Espagne et de Grande-Bretagne. La participation à ce congrès a été pour moi aussi une première occasion de découvrir l'Irlande, sa culture et sa spiritualité. Cette île éprouvée par l'histoire est le principal témoin aujourd'hui d'une culture celte pré-romaine et d'un christianisme occidental pré-latin. Ainsi, la présence orthodoxe récente rencontre ici le témoignage d'une spiritualité chrétienne ancienne qui plonge ses racines loin en Orient jusqu'au monachisme égyptien. L'ancienneté du christianisme celtique contredit tous ceux qui, en Grande-Bretagne ou ailleurs, prétendent revenir aujourd'hui au druidisme païen à travers des fêtes comme Halloween. Je demandais d'abord à Mgr Joseph de nous parler de cette rencontre des jeunes orthodoxes roumains à Dublin.
C'est une conférence qu'ils ont organisée autour de Mère Madeleine, Magdalena, du monastère Saint-Jean-Baptiste de Maldon, Essex, en Angleterre. Un monastère qui a été fondé par le père Sophronie, le disciple de Saint-Silouane. Et Mère Magdalena, par son expérience avec les enfants, les jeunes, les adolescents, en général depuis plus de 20 ans, on la voit aujourd'hui comme une voie incontournable dans l'Église orthodoxe ici en Occident, en ce qui concerne les jeunes et les adolescents en général et la famille chrétienne. Donc les jeunes l'ont invité et ils ont eu 2 jours de conférences, des discussions, des partages avec Mère Magdalena, avec moi-même et bien sûr entre eux. L'orthodoxie en Irlande est très jeune, on peut dire. Elle a commencé par l'émigration des orthodoxes. Premièrement, il y avait l'émigration grecque. Et aussi l'immigration russe et roumaine qui sont plus récentes, de même en Irlande du Nord. Donc on peut dire que l'orthodoxie en Irlande est très très jeune, mais en même temps elle est bien ancrée puisque du côté anglophone ou anglo-saxon, on a l'orthodoxie américaine, l'orthodoxie anglaise en Grande-Bretagne, qui fait que l'orthodoxie de langue anglaise ici en Irlande se retrouve vite sans avoir besoin de beaucoup de préparation pour pouvoir entrer en dialogue avec l'église locale, ici l'église catholique ou l'église anglicane. Et donc l'église orthodoxe, de quel côté que ce soit, grec, russe, roumaine, arabe ou irlandaise tout court, elle se retrouve tout d'un coup, on peut dire, chez elle.
Pourtant, même si cette immigration roumaine est de date récente, il dispose à Dublin d'une grande église qui est comparable en taille avec la cathédrale orthodoxe roumaine de Paris. Et il s'agit d'une paroisse qui a anniversé cette année 10 années d'existence.
Oui, justement, cette année, nous allons célébrer les 10 ans de la paroisse. Déjà, 10 ans, ça ne fait pas beaucoup dans la vie d'une paroisse. Mais en tout cas, il y a beaucoup d'enfants qui sont nés ici. Il y a plus de 1000 enfants qui ont été baptisés dans cette église, dans cette paroisse. L'église où nous célébrons maintenant, c'est une concession de l'église anglicane qui a été transformée en église orthodoxe, a été transformée par le fait qu'extérieurement, elle porte les signes de l'orthodoxie, par le fait qu'on a mis un iconostase et beaucoup d'icônes dans l'église. Et bien sûr, je suis très content de l'atmosphère de prière qui s'est installée dans cette église depuis quelque temps, une belle chorale qui aide beaucoup l'assistance à la prière.
Aussi, c'est intéressant de remarquer le fait que presque la moitié de l'office est célébrée en anglais.
Oui, par le fait qu'il y a premièrement des familles mixtes qui viennent à l'église, la partie irlandaise et la partie roumaine. Donc ils viennent ensemble à l'église. Souvent, la partie irlandaise ne comprend pas le roumain. Donc nous avons l'habitude ici de célébrer la moitié pratiquement de la liturgie en anglais, ayant aussi un prêtre irlandais à la paroisse qui aide beaucoup en ce sens.
Monseigneur Joseph, l'Irlande, c'est une terre chrétienne ancienne. Donc le christianisme en Irlande est arrivé très tôt. Il y a une présence, on peut dire, orthodoxe d'avant le schisme qui remonte très anciennement. Les premiers moines, n'est-ce pas, d'Irlande ont beaucoup fait pour l'évangélisation de l'Europe occidentale. Comment se retrouve cette orthodoxie, disons, nouvellement arrivée avec cette tradition ancienne de l'île d'Irlande chrétienne?
On se retrouve très bien parce que nous avons donné, par exemple, la fête de Saint Patrick à une paroisse que nous avons à Cork. Donc cette paroisse de Cork a pris un saint local qui est un saint universellement reconnu et prié dans l'église orthodoxe. Donc nous l'avons donné comme patron de notre paroisse de Cork. Ça explique le fait que d'un coup, l'orthodoxie, la foi chrétienne orthodoxe, s'enracine par l'histoire et à travers l'histoire dans ce pays du temps où l'Église était unifiée, l'Orient et l'Occident. Surtout cette tradition celte très ancienne qui a marqué l'Église universelle en entier, pas seulement sa partie occidentale, mais d'Occident jusqu'en Orient, ils ont marqué la vie et la foi de l'Église.
Il y a combien de paroisses orthodoxes roumaines aujourd'hui en Irlande?
Orthodoxes roumaines, nous avons un petit nombre de paroisses. Donc nous avons à Dublin, à Cork, à Limerick, Galway. Après, en Irlande du Nord, nous avons à Ballymena et à Belfast. Et bien sûr, en Irlande, nous avons une dizaine d'autres villes où nous avons ouvert des missions. Et nous avons, dans les mois à venir, en perspective d'ouvrir d'autres paroisses, donc transformer les missions en paroisses.
Sir Magdalene du monastère orthodoxe Saint-Jean-Baptiste d'Angleterre a été le principal conférencier du congrès Nepsis de Dublin. Je lui ai demandé d'abord de nous donner ses impressions après cette première participation à une rencontre des jeunes orthodoxes roumains.
J'ai fait une petite conférence et j'ai répondu aux questions. J'ai peur de rencontrer les jeunes, mais ce qui m'a impressionné, c'est que ici en Irlande, tout à l'ouest de l'Europe, ils sont venus de Slovaquie, d'Espagne, beaucoup de jeunes roumains de l'étranger, désireux d'approfondir leur vie en Christ. Mes impressions sont bien sûr positives.
Sœur Magdalene, parlez-nous s'il vous plaît du sujet de votre conférence à ce congrès de Nepsis à Dublin.
On m'a donné un peu le thème d'être jeune et orthodoxe. Alors j'ai commencé à parler de l'amour de Dieu, que ce n'est pas simplement une vague sentiment de Dieu envers l'humanité, mais c'est que c'est la vie personnelle de Dieu en lui-même, même avant la création. Donc que la personne qui aime est une réalité absolue. Si on comprend l'amour d'une manière théologique, l'amour n'est pas simplement un sentiment, mais un partage de vie. Donc on peut avoir un profond sens de l'identité personnelle, du moi, sans avoir la pensée du monde ou égoïste, mais de croire en moi-même de manière théologique. Que je suis en effet une personne unique, irremplaçable, aimée uniquement par Dieu. Et si moi je vis la foi orthodoxe, ça reste une croyance, une foi, une énergie personnelle, malgré le fait que l'orthodoxie garde les mêmes offices, les mêmes credos depuis beaucoup de siècles et à travers beaucoup de différentes cultures. Pour être un jeune moderne, je n'ai pas besoin d'un office modernisé, parce qu'il s'agit de la vérité et de l'expérience de la vérité qui reste la manière la plus parfaite pour l'humanité de connaître Dieu comme il est, donc d'être en contact avec la réalité ultime de Dieu, et je suis créé à son image. Donc j'ai dit que plus je suis lié avec la vérité, plus je suis moi-même et je ne perds pas mon individualité. Au contraire, plus j'arrive à aimer, plus je suis moi-même. Si moi je garde cette foi, c'est parce que moi, volontairement, je garde vivant ma relation avec Dieu, qui reste unique même pour Dieu, et que si je dis « je crois », c'est que en moi habite le Saint-Esprit, en moi demeure l'énergie du Christ qui a vaincu l'enfer. Dieu ne va pas s'imposer à moi, donc il s'agit d'une relation vivante, et plus je deviens indépendant, plus cette relation devient personnelle. Chaque fois que quelqu'un dit « aie pitié de moi », c'est une prière unique avec des conséquences cosmiques. Et après, j'ai souligné le fait que mon développement personnel était influencé par mes relations avec d'autres. D'abord Dieu, mais aussi les autres. Alors là, on a parlé un peu des relations entre le jeune et les parents, le jeune et le clergé, et le jeune et les collègues.
Après votre conférence, les jeunes ont posé des questions. Quelle est la question que vous avez trouvée la plus intéressante et quelle a été votre réponse?
Difficile de choisir, il y avait beaucoup de questions intéressantes. J'étais frappée par la compassion qu'ont ces jeunes orthodoxes pour leurs contemporains qui ne sont pas de l'Église. Et beaucoup de questions concernaient comment témoigner mieux. Par exemple, si on a des amis qui ne sont pas proches du Christ, comment les aider à devenir proches du Christ? Et pour cela, ma réponse était qu'il n'y a pas de recette, qu'il faut discerner, il faut prier, il faut attendre le bon moment pour parler, parce que quelquefois parler trop tôt ou de manière sans tact, ça peut faire un effet contraire à ce qu'on veut. Ils ont beaucoup aussi parlé de la souffrance dans le monde, de leur propre manque de foi et même dépression. Alors j'ai souligné que justement, on a la foi que le Christ a vaincu l'enfer et qu'il est accessible et qu'il peut tout faire et qu'il faut implorer l'aide de Dieu en toutes circonstances.
Sœur Magdalene, vous avez une grande expérience dans le travail avec les jeunes et les enfants. C'est une vocation, c'est une passion pour vous?
J'ai passé beaucoup de dimanches avec les jeunes au monastère Et cela venait tout à fait naturellement quand j'étais jeune moniale et je parlais anglais avec les jeunes de famille grecque. Donc j'ai expliqué la foi en répondant à leurs questions en conversation tout à fait informelle. Et ça devenait habituel. Et le père Sophroni m'a encouragé dans cela. Il m'a libéré d'autres travaux le dimanche pour que je consacre mon temps pour les jeunes. Donc c'était plutôt comme ça. Je ne dirais pas que c'est une vocation. C'est une chose qui est devenue tout à fait naturelle. Après cela, les parents ont commencé à me demander conseil et on m'a demandé de faire une série de conférences pour les parents. Après, on a publié ces conférences et après, les gens me questionnent parce qu'ils ont lu le livre et on m'a donné une sorte d'étiquette comme experte sur les enfants et je ne me considère pas comme ça. Mais il faut dire que j'ai vécu 18 ans avec le père Sophroni en lui demandant chaque fois conseil, quoi dire dans un tel cas ou même j'ai raconté les conversations et lui, il m'a grondé de mes erreurs, ce que j'ai montré dans mes livres, il m'a corrigé. Donc, ces 18 années d'expérience avec lui m'ont donné les grandes lignes pour me situer quand je parle aux enfants ou j'écoute les enfants ou je passe mon temps avec les enfants. Et je pense qu'il avait des principes importants et donc j'ose maintenant parler après plus que 30 années d'expérience dans ce domaine.
Sœur Magdeleine, vous avez été disciple direct du père Sophroni qui a été votre père spirituel et le supérieur du monastère où vous vivez aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous dire brièvement quel est le message le plus important que la théologie et la spiritualité du père Sophroni nous a laissé un héritage pour l'époque ou pour la société où nous vivons aujourd'hui?
Je pense que pour moi c'est difficile de résumer en peu de mots et il s'est exprimé très ouvertement dans ses livres. Beaucoup plus ouvertement que habituellement pour un moine atonite qu'il était. Mais il a pensé qu'il pouvait un peu dévoiler son âme pour aider d'autres qui passent par des difficultés, surtout. Donc, je ne peux que recommander de lire ses propres mots et de voir son héritage écrit et même traduit beaucoup en français. Et pour moi, mes réflexions personnelles sont difficiles aussi à résumer. Je pense que théologiquement, c'est vrai que beaucoup de ceux qui l'ont étudié de façon théologique et même académique ont mis leur attention sur le mot hypostase, c'est-à-dire personne dans le sens théologique. C'est pour ça qu'il aimait bien le mot d'origine grecque, parce que ça différenciait de la manière de la langue courante ou purement psychologique, de l'absoluité de l'hypostase, personne en Dieu. Par conséquent, la valeur unique de chacun des êtres humains, et qu'il soulignait cela comme caractéristique de l'orthodoxie, de ne pas mettre un système ou un principe ou une essence théorique, disons, au-dessus de la personne. Et je pense que si vous me forcez de résumer en une phrase, je choisirai ce terme.
Thank you.
qu'est-ce que vous pensez que le père Sophronie a reçu lui-même de plus important de la part de son maître spirituel, de son père spirituel qui a été Saint-Silouan du Mont Athos?
Il décrit cela beaucoup mieux que moi dans son livre sur Saint-Silouan, qui va bientôt être republié en français. Lui-même, il dit qu'il a compris ce que c'est une personne épanouie, qu'il a vu ça en Saint-Silouan et qu'il a compris qu'est-ce que c'est une personne. En voyant Saint-Silouan, il a compris qu'un homme, un individuel si vous voulez, embrasse tout l'être, et divine et humaine, et qu'il a vu, il a témoigné que ce n'est pas de la théorie, que cet homme pendant les décennies priait toutes les nuits pour toute l'humanité comme pour lui-même, avec un degré d'amour rare même parmi les saints. Et en plus, c'était un homme presque illettré. Donc ça soulignait pour un homme comme le père Sophronie, qui avait beaucoup de capacités intellectuelles et qui était très cultivé et bien éduqué. Donc c'était comme, si vous voulez dire, une preuve qu'il s'agit de la vie et pas simplement des idées, même des idées théologiques.
Sœur Magdeleine, vous êtes anglaise et vous avez été élevée dans une famille anglicaine. Aujourd'hui, il y a nombre des anciens anglicains qui ont rejoint l'Église orthodoxe. Il y a des paroisses orthodoxes anglophones qui se sont constituées en Angleterre. Parlez-nous un peu de cette façon particulière d'acculturation de l'orthodoxie, d'intégration de l'orthodoxie dans la culture anglaise contemporaine.
Pour dire la vérité, je ne connais pas beaucoup les paroisses anglaises en Angleterre parce que je vis maintenant depuis plus que 30 années dans le monastère, donc je rencontre ceux qui viennent nous visiter. Mais ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a une grande différence, par exemple, des États-Unis et l'Angleterre. Aux États-Unis, on parle directement de sa confession. Et tout à fait directement dans la conversation, on se rencontre, on compare. Et beaucoup plus de personnes aux États-Unis vont à l'église régulièrement. Tandis qu'en Angleterre, il y a une diminution frappante d'assistance à l'église. Je pense que c'est 5%, il faut vérifier ça, mais disons très peu de la population. Et en plus, les Anglais sont très réservés. Ils ne parlent pas ouvertement de leur vie, de l'émotion, de leur foi. Donc, témoigner de l'orthodoxie en Angleterre, il ne s'agit pas de frapper à la porte et de parler tout de suite. Au contraire, il se renfermerait davantage. Donc, je pense que chaque conversion est un processus plus ou moins lent et avec beaucoup de réflexion.
Votre monastère, qui a été fondé donc par un père spirituel russe, le père Sophronie Sakharov, aujourd'hui consiste dans une communauté internationale. Vous continuez à suivre une tradition que père Sophronie a amenée du Mont Athos. Et disons, c'est une des rares monastères en dehors du Mont Athos où cette tradition est observée. Et je parle de la prière de Jésus, de la prière du cœur, qui est dite à voix haute dans la communauté. Parle-nous un peu de cette pratique et quel est le but et l'intérêt par rapport à la prière du cœur dite personnellement par chacun dans son coin de prière.
C'est une façon de prier qui n'est pas beaucoup répandue, mais quand même connue. Il y avait des précédents dans l'histoire, surtout dans des petites skites, surtout quand il n'y avait pas de livre liturgique ou en plus s'il n'y avait pas de langue commune. Et beaucoup d'ermites utilisent la prière de Jésus pour remplacer les offices quotidiens. Père Sophronie était à peu près cette année ermite au Mont Athos. Quand la communauté a commencé, l'idée c'était une petite communauté de prière un peu cachée dans ce village en Angleterre qui continuait de prier avec lui et à sa manière. Mais plus le monastère était connu, une fois que c'était constitué officiellement comme monastère, il y avait beaucoup de visiteurs. Et on avait aussi la possibilité, avec les livres, avec l'apprentissage du chant, etc., de pratiquer les offices. Mais on a vu que cette pratique aidait les gens et les membres du monastère et les visiteurs de se familiariser avec la prière de Jésus et d'avoir l'avantage de la prière ensemble, c'est-à-dire que quelqu'un dit la prière, une seule personne dit la prière, et les autres peuvent donner toute leur attention à la prière et à l'écoute. Et bien sûr, si la prière est dite de manière distincte et calme, sans changement de rythme, sans beaucoup d'émotion, même l'effort d'écouter est diminué. Donc, tout l'effort peut être dans la prière. Et le contenu de ce « nous », quand on dit « aie pitié de nous », peut varier, bien sûr. Ça peut impliquer ceux qui sont présents, ou ceux de la communauté, ou toute l'humanité même. Et donc, l'expérience est quand même un petit peu différente que la prière en solitude. Il y a des avantages de cette prière dite ou pratiquée en solitude. On est plus libre à changer l'expression, etc., ralentir, etc. Mais il y a une force quand la prière est dite, en, comme dit le Seigneur, quand deux ou trois ou même une vingtaine ou une trentaine sont unis ensemble.
Vous venez d'entendre l'émission L'Église orthodoxe aujourd'hui. Une émission présentée et réalisée par Bogdan Florin Vlaicu. Les chants liturgiques ont été interprétés par le chœur des monastères Simonos Petrao Moatos et Saint-Antoine le Grand dans le Vercors et la chorale Madrigal de Bucarest. Cette émission a été produite avec l'aide de la cathédrale orthodoxe roumaine de Paris. Vous pouvez réécouter l'émission sur la rubrique podcast audio du site internet orthodoxie.com.